Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional. Tri simplifié sur le territoire du Citréval, le syndicat d'élimination et traitement des déchets du Beaujolais-Dombes. Ce 2 février, la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône adoptée par l'Assemblée nationale sera examinée par la Commission des affaires économiques du Sénat, la FNEORA. Fédération nationale de l'environnement, Auvergne-Rhône-Alpes, déplore l'absence de volonté de réservation de la biodiversité. Et en fin d'édition, le Festival des jeunes créatrices au Théâtre de Villefranche. Par Valérie Blais.
Calade, le journal.
Avec la crise du Covid-19, la France et ses gouvernements ont découvert que notre pays était très fortement désindustrialisé. Et ils ont pu en mesurer concrètement les graves inconvénients. Il a fallu importer pour plus de 6 milliards d'euros de masques de protection et nos salles de réanimation dans les hôpitaux ont manqué de respirateurs artificiels. Car les fabricants étrangers, complètement débordés, ne pouvaient pas nous approvisionner. L'Allemagne en compte 2 et la Suisse 1, qui est très réputée. Mais la France... aucun. Et la population a appris avec stupeur que 90% de nos médicaments sont produits en Chine ou en Inde, d'où une très grande dépendance à l'étranger en cette matière. Alors, la nécessité de réindustrialiser le pays est apparue comme une évidence. Et les pouvoirs publics se sont immédiatement attelés à la tâche. La foire aux idées est lancée à nouveau. Campagne présidentielle oblige, nous confie Isabelle Raymond sur France Info. 70 milliards d'euros publics mobilisés pour la réindustrialisation. Entre le plan de relance et France 2030. Le gouvernement valorise donc les projets de relocalisation industrielle pour tenter de créer de toutes pièces des filières à forte valeur ajoutée. C'est ainsi que la France, avec l'Union européenne, identifie des projets et les finance, que ce soit dans des usines de batteries électriques, dans l'hydrogène ou encore les biotech. Et puis, pour attirer les investisseurs étrangers, l'exécutif joue en parallèle sur la fiscalité, avec une réduction des impôts de production et de l'impôt sur les sociétés. Après, il faut mettre l'accent sur la formation, alors que des générations entières ont été éloignées des métiers manuels, en espérant que toute cette énergie et cet argent dépensé créera vraiment de la richesse. Car, en attendant, la vieille industrie nous rappelle qu'une technologie en chasse une autre. Que les salariés et les sites de production ont bien du mal à se recycler. Le 1er février marque le changement des consignes de tri sur le territoire du Citréval. Le geste de tri est simplifié. Tous les emballages pourront être déposés dans le bac. Le point avec Elodie Charveria, chargée de la communication, de la prévention et de la qualité pour le Citréval. Le syndicat mixte d'élimination des traitements et de valorisation des déchets Beaujolais-Dombes.
Alors du coup, à partir du 1er février 2022, tous les emballages pourront être mis dans la poubelle jaune. Voilà, maintenant il n'y a qu'une question à se poser, c'est dans mes mains, est-ce que j'ai un emballage? Si c'est oui, je mets dans ma poubelle jaune, alors dans mon bac jaune, dans mon conteneur jaune ou dans mon sac jaune. Tout ce qui est emballage par contre volumineux ou avec ayant contenu des produits dangereux, ça part à la déchetterie. Les pots en plastique, les barquettes en plastique, les sachets en plastique, maintenant vous pouvez le trier et mettre dans la poubelle jaune. Voilà, la poubelle grise, en fait, c'est la poubelle des ordures ménagères et cette poubelle, elle va être diminuée parce qu'on enlève tous les emballages de cette poubelle pour les mettre dans la poubelle jaune. Donc vous verrez votre poubelle normale diminuer parce qu'on va mettre les emballages dans les contenants jaunes.
Et bien évidemment, la verte.
La verte, en fait, on va mettre tout le vert, donc le vert d'emballage. Si ce n'est pas du vert d'emballage, si c'est par exemple de la vaisselle cassée, un plat en verre cassé, ça va à la déchetterie ou dans la poubelle normale. Voilà, c'est vraiment les emballages aussi en verre.
Donc, alors, le papier, là, voilà. Recyclage.
Au niveau du papier, donc il y a différentes façons de faire. Donc ça, il faudra bien vous renseigner auprès de votre commune ou de votre collectivité. Mais le papier, soit il se met dans le conteneur bleu, soit dans la poubelle jaune, selon où vous habitez. Donc il faut bien demander les consignes de tri par rapport à votre commune.
Alors peut-être qu'il y a aussi des facilités.
Oui, sur chaque poubelle ou conteneur, selon comment vous êtes collecté, il y a les images de ce que vous devez mettre dedans. Et du coup, là, sur la poubelle jaune, ou sur le contenant jaune, ou sur le sac jaune, ou le conteneur jaune, vous allez avoir les nouvelles consignes de tri qui seront indiquées.
Les choses à ne pas faire.
Alors, les choses à ne pas faire, il ne faut surtout pas imbriquer les déchets. Donc si vous avez un carton, par exemple, de céréales, ne mettez pas d'autres cartons dedans, de bouteilles en plastique. Ça ne sera pas trié parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc surtout, n'imbriquez pas vos déchets. Vous videz bien vos déchets, mais vous ne les lavez pas. Et vous les aplatissez si c'est possible.
Et la question des bouchons,
vous... Non, alors les bouchons, en fait, vous pouvez les laisser sur la bouteille. Voilà. Vu que c'est la même matière, c'est du plastique, donc vous laissez sur la bouteille. Et après, au niveau du recyclage, ils ont un système pour séparer les deux sortes de plastique.
Et les couvercles verts ou autres, voilà.
Voilà, les couvercles en métal, en fait, vous pouvez maintenant les mettre dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune, vous pouvez également mettre, à partir du 1er février, tous les petits emballages en métal. Donc, toutes les plaquettes de médicaments sans les médicaments, vous pouvez mettre dans la poubelle jaune. Les capsules, les couvercles, tout ça, vous pouvez mettre dans la poubelle jaune. Les capsules de Nespresso, pas de souci, vous pouvez mettre dans la poubelle jaune. Alors, au niveau des fourchettes en plastique, ça s'appelle, en fait, c'est un objet. Et vu que c'est un objet, ça ne va pas au tri. Il y a vraiment la notion d'emballage et d'objet. Si c'est un emballage, on met au tri. Si c'est un objet, on met dans la poubelle normale ou à la déchetterie.
Tri simplifié sur le territoire du site Réval, le syndicat d'élimination et traitement des déchets du Beaujolais d'Ombes. Plus d'infos www.citreval.com et sa page Facebook. Ce 2 février, la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône adoptée par l'Assemblée nationale sera examinée par la Commission des affaires économiques du Sénat. La FNE-ORA, la Fédération nationale de l'environnement, Auvergne-Rhône-Alpes, dans un communiqué, regrettait l'absence de volonté de placer la préservation de la biodiversité comme objectif du prolongement de la concession du Rhône qui est au bénéfice du CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui exploite et aménage le fleuve. Les explications par téléphone avec Jacques Pulou, responsable du réseau eau pour la FNE Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, mais le dossier, c'est la concession du Rhône qu'a obtenue la CNR depuis sa création en 1933, arrive à échéance à la fin 2023. Et donc, l'alternative était la suivante, soit il y avait une ouverture à la concurrence de la concession du Rhône, soit il y avait un prolongement au bénéfice de la CNR. Donc le gouvernement a négocié auprès de Bruxelles un prolongement au bénéfice de la CNR. Et c'est le projet de loi qui entérine cette décision.
On peut rappeler peut-être les missions, trois missions sur cette concession.
Oui, elle date de la loi de 21 qui a créé cette concession du Rhône, qui est fondée sur un triple point de vue, qui est un point de vue sur l'énergie hydroélectrique, la navigation intérieure, la navigation fluviale, le transport, l'agriculture en son volet irrigation.
Donc un gros dossier bien évidemment concernant le Rhône.
Voilà, l'idée des créateurs, là, qui étaient à la fois le président Herriot et puis le président du Conseil Général de l'Isère, qui était de faire payer par l'énergie les retombées sur la navigation et sur l'irrigation.
Alors, en quoi est-ce problématique ?
Dans son principe, ce serait pas problématique. Ce qui se passe, c'est que d'abord, le prolongement est acquis un peu sur les mêmes bases qu'en 1921, alors qu'on a quand même beaucoup, les points de vue ont pas mal évolué, notamment la prise en compte du changement climatique et de la biodiversité. Et là, on regrette que dans le projet de loi, aux trois piliers initiaux de la loi de 21, on n'ait pas rajouté un quatrième pilier qui aurait pu être la biodiversité.
Donc, vous souhaitez en quelque sorte à la FNE rediscuter le schéma d'aménagement et de gestion du fleuve, c'est ça ?
Oui, mais c'est-à-dire que précisément, il n'y a pas de le fleuve Rhône a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Rhône. Ça n'existe pas aujourd'hui, alors que la plupart de ces grands affluents, que sont l'Arve, l'Ain, la Durance, sont dotés de schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ce qui nous est proposé dans le prolongement du Rhône ne correspond pas du tout à cette gestion globale des territoires que nous appelons de nos voeux.
Si la Fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement regrette dans les propositions du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat l'absence de volonté de placer la préservation de la biodiversité comme objectif du prolongement de la concession du Rhône, la FNE-ORA apprécie toutefois les propositions destiné à renforcer le rôle du comité de suivi de la concession, dans un communiqué de la FNE-ORA. La suite de l'info avec Valérie Blais.
Rencontre avec Amélie Casasol, directrice du Théâtre de Villefranche, pour nous présenter la deuxième édition du festival Jeunes Créatrices, un temps fort qui met la création des artistes féminines à l'honneur.
Donc une belle effervescence, on a croisé l'équipe là autour de Jeanne Garraud pour la première, donc ça démarre mercredi.
Oui, ce sera la première date du festival, mercredi avec Jeanne Garraud, sur le temps de midi, hein, les midis du théâtre. Donc, le spectacle est déjà complet, mais voilà, c'est une façon de bien commencer le festival. Ensuite, on a dans l'après-midi de ce même jour une présentation d'étape de travail de Julie Guichard, qui est associée au théâtre, et puis le spectacle de Maïane Barthès sur le grand plateau du théâtre. Donc, il reste encore de la place, puisque là, on est dans la grande salle, avec « Je suis venue pour rien ».
Et puis on enchaîne.
La suite du festival avec jeudi, une rencontre en partenariat avec la librairie des Marais. Donc une rencontre avec Ambre Cahan, qui est une jeune metteuse en scène associée au théâtre, qui prépare une adaptation du roman L'art de la joie, un roman fleuve de Goliarda Sapienza, qui est édité au Tripode. Et l'éditeur donc, sera présent pour un échange à la librairie des Marais. Ensuite, au théâtre, au Café du Théâtre, on propose, c'est important de le dire aussi, une représentation gratuite, tout comme la rencontre. On a énormément de rendez-vous gratuits, donc c'est vraiment ouvert à tous. Lucie Rébéré présentera une étape de travail, là aussi, avec échange avec le public pour son prochain spectacle, qui est « Dernière frontière ». Donc n'hésitez pas à pousser la porte du théâtre jeudi soir à 20h30. Ensuite, nous aurons vendredi deux représentations, une toujours au Café du Théâtre, un spectacle immersif à 19h. Donc c'est un spectacle auquel on participe activement, on est au plus près des comédiens, on est immergé, on va dire, dans le processus de création. Donc vraiment une expérience assez passionnante à vivre. Donc oui, Nébuleuse, ce spectacle immersif proposé par Marion Pellissier, qui aura lieu à la fois vendredi et samedi à 19h. Il faut bien réserver parce que la jauge est réduite. Et puis le vendredi, toujours un spectacle dans la grande salle, My Body is a Cage, de Ludmila Dabo. Ludmila, on l'avait déjà accueillie au théâtre comme comédienne et chanteuse. Elle avait interprété une magnifique Nina Simone dans le spectacle proposé par David Lescaut, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, elle était revenue l'année suivante dans la comédie musicale aussi de David Lescaut. Donc, c'est une comédienne qu'on connaît bien au Théâtre de Villefranche et qui, là, vient présenter sa première mise en scène. Et elle est sur scène également avec quelques comparses.
En mode un peu cabaret. Hein.
Voilà, c'est vraiment un spectacle. Alors, c'est un spectacle drôle et à la fois qui vient chercher comme ça des sujets un petit peu plus graves, hein, qui parle de l'épuisement, le burn-out, enfin, l'épuisement des corps dans une société qui va toujours de plus en plus vite, et à la fois c'est présenté de manière très extravagant, en mode cabaret, un petit peu musical, donc qu'avec des formidables comédiennes qui sont aussi bonnes comédiennes que chanteuses. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette proposition musicale. Nous finirons donc le samedi avec trois propositions, donc toujours autour du travail de Ludmila. Le samedi matin de 10h à 13h, on vous propose un atelier autour du spectacle. Donc si vous souhaitez vous inscrire, il reste encore des places si vous voulez participer à un atelier de création. Et puis l'après-midi, un très beau spectacle à 17h d'Élise Châteauret, un spectacle qui s'intitule Père. Donc là, c'est une metteuse en scène qui a souhaité réfléchir à la place des pères, comment ils vivent la paternité aujourd'hui, mais aussi comment ça s'inscrit dans une histoire de filiation. C'est un très très beau spectacle qui aura lieu salle Planchon, donc dans un petit écrin, sous forme un peu de conférence et avec deux formidables comédiens. Donc je peux que vous inciter à venir. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, Nébuleuse au bar à 19h qui suivra.
Donc il n'y a pas forcément de fil conducteur sur les thématiques abordées par ces créatrices, si ce n'est voilà, qu'on défend la création au féminin et on sent malgré tout qu'elles abordent à la fois des thèmes forts autour du féminisme, mais pas seulement, de la paternité, de la famille, du travail, de l'émancipation aussi. Hein.
Oui, ben c'est des thèmes qui traversent la société. Moi, ce que je trouve intéressant de faire un focus, c'est de permettre à des jeunes créatrices et des femmes en général de s'exprimer sur ces sujets, c'est d'avoir la diversité des points de vue, puisque c'est voilà aussi l'origine de ce festival. C'est au vu des chiffres qui sont sortis il y a quelques années et qui ont très peu évolué sur les écritures théâtrales qui sont portées sur les plateaux, les mises en scène qui sont malheureusement très peu portées par des femmes encore. On est passé en 10 ans de 5%, donc 5% de textes écrits par des femmes, on est passé à 29%. Donc c'est une formidable avancée, mais enfin c'est quand même que 29%, donc ça veut dire quand même encore 70% de points de vue fort intéressant masculin, mais on a besoin d'avoir une diversité des points de vue. Et, mais par contre, quel que soit le sujet abordé, Élise parle d'hommes et s'intéresse à la paternité, tout comme des hommes ont écrit de magnifiques romans sur des portraits de femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des points de vue et qu'on puisse permettre cette expression.
C'était Amélie Casassol, directrice du Théâtre de Villefranche, pour présenter la deuxième édition du festival Jeunes Créatrices, un temps fort de la programmation qui met les artistes féminines à l'honneur et qui se déroulera du 2 au 5 février au Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.